Bonsoir à tous. Donc je vais commencer par l'appel avant d'ouvrir la séance. Jackie Sommeveil. Vanessa Savini, absente, pouvoir à Jean-Pierre Monnet. Jean-Pierre Monnet. Myriam Charabasi. Ghislaine Genin. Raymond Baudin. Jean-Pierre Marion. Francine Arrigoni. Fernand Lopez, Pierre Bluna, Béatrice Rosan, absente, pouvoir à Jean-Pierre Marion, René Roja, Nicolino Tondambé, absent, pouvoir à René Roja, Patricia Morgado, Renaud Mélidon, Bérangère Champon, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Along. Victoria Audin, Alexandre Luxos, Nicolas Bossupica, Eric Silvestrini, Christine Curteau, Daniel Mansip, Cécile Gaillard et Sylvia Veuguet. Le quorum est atteint. Donc, je déclare le conseil municipal du 10 avril ouvert. Donc, concerne le procès-verbal du conseil municipal du 6 mars, est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal ?
Ben, je m'abstiendrai parce que effectivement, donc si mes interventions ont bien été reprises donc dans leur intégralité. Bon, les dernières minutes du conseil municipal ne sont pas évoquées, où monsieur le maire donc m'a coupé la parole et a terminé le conseil municipal. Donc je m'abstiendrai sur ce procès-verbal qui ne remet pas les choses au point.
Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres remarques ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Je propose qu'on désigne Nicolas Bossupica comme secrétaire de séance. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. On va commencer donc par la délibération numéro 2024-13. Au préalable, je voudrais... On vous a rajouté une délibération, la 2024-27, donc celle-ci, on la passera immédiatement derrière la 2024-13 pour avoir une cohérence dans le déroulé du Conseil. Donc je laisse la parole à Myriam Charabasi, adjointe aux finances, pour la délibération 2024-13.
Bonsoir à tous. Donc première délibération pour ce conseil concernant le budget primitif. Donc je le rappelle, budget annexe pour le château de Montvinet. Donc pour rappel, cette proposition, je ne sais pas qui c'est qui. Ouais, ça doit être moi. Pour rappel, donc ça a été vu en commission finances qui s'est déroulée dernièrement. Le budget qui a été vu et proposé lors de cette commission a été basé sur la création, il faut le rappeler, la création d'un SPIC. Nous avons établi un budget provisoire et à l'équilibre, encore une fois avec des hypothèses, puisque nous devions repartir sur les différents chapitres avec leurs dépenses ou dotations, en fonctionnement, à savoir dépenses et recettes à hauteur de 200 000 euros, qui correspond à une avance du budget principal et destinée principalement aux charges à caractère général et charges de personnel. Et 150 000 euros en recettes et dépenses qui sont, eux, pour les dépenses réservées principalement aux études et diagnostics. Donc nous vous les avons présentées sur cette délibération de la manière suivante, où vous avez un budget total en fonctionnement et investissement pour les dépenses et recettes à hauteur de 200 000 euros et 150 000 euros, ce qui fait un budget total et provisoire à hauteur de 350 000 euros. Et vous retrouvez par section, section de fonctionnement pour les recettes, où vous retrouvez la somme des 200 000 euros. Pour la même section au niveau des dépenses, l'équilibre à 200 000 euros. Et pour la suite, au niveau de la section d'investissement, des recettes équilibrées à 150 000 euros et pour les dépenses également à 150 000 euros. On rappelle que l'instruction budgétaire et comptable seront sous la nomenclature M4. Et on vous propose un budget équilibré sur ces sommes-là et qui reste encore une fois sur des hypothèses, puisque nous devons pour le moment engager quelques dépenses. Donc on l'a dressé de la manière suivante. Qui est contre ?
Non, je voudrais intervenir.
Allez-y.
Donc en fait, je crois que ce serait bien qu'on puisse discuter des deux en même temps. Enfin bon, de la délibération 2024-13 et celle de 2024-27.
Alors on va parler déjà de la première, puisque oui. Ou alors vous me laissez terminer acter sur la deuxième.
Je ne sais pas ce que.
Bah, exprimez-vous mais, déjà sur la. Oui, vaut peut-être mieux que je parle de la deuxième.
Oui, parce que elle est la conséquence de la première.
Donc, dans la continuité, la deuxième délibération qui est liée à celle que je viens de vous exposer concerne l'avance de trésorerie pour le budget annexe. Donc, on rappelle que ce budget est doté d'une autonomie financière et qu'il est soumis au principe d'équilibre financier. Les travaux réalisés sur ce budget seront financés par un emprunt, mais ce dernier n'étant pas encore réalisé, et la trésorerie étant insuffisante pour payer les premières dépenses, il vous est proposé de verser une avance du budget principal vers le budget annexe à hauteur de 200 000 euros afin de pouvoir procéder au paiement de certaines factures.
Voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup de questionnements. Donc, sur la délibération du vote du budget, la commune prévoit des amortissements sur des biens qui ne sont pas terminés au budget, qui ne sont pas mis au budget 2024. Cela ne nous semble pas réglementaire. Normalement, alors je vous pose des questions. Si vous me répondez, si ce que je dis n'est pas juste, j'attends vos réponses. On attend l'achèvement du bien pour procéder à son amortissement. Sur pour le budget annexe, vous ne mettez que les dépenses et recettes qui concernent 2024, ce qui est légal. Mais ce n'est pas très transparent, car on n'a pas une visibilité d'ensemble de l'opération, alors qu'on sait déjà qu'il va y avoir pour plus de 2 millions de travaux. Il serait bien qu'un tableau de financement soit présenté. Pas de détails aussi, il serait bien de voir ce qui est prévu sur chaque chapitre. Pour les recettes, ce sont des recettes fictives pour l'équilibre. Lesquelles ? Ces recettes, à quoi correspondent-elles ? Au loyer, qui serait prélevé ? Dans ce cas, elles ne seront pas touchées en 2024. Quelles sont les dépenses d'investissement prévues avec détail ? Est-ce que cela inclut des dépenses déjà réglées sur le budget principal avant le vote de ce budget ? Quant aux dépenses d'exploitation, 50 000 euros en dépenses de fonctionnement, pouvez-vous nous expliquer les 10 000 euros en charges de personnel, les 40 000 euros charges à caractère général ? Je continue sur l'avance, parce que comme c'est tout est imbriqué. Il a indiqué que l'avance de trésorerie ne sera pas remboursée. Apparemment, une avance en comptabilité est forcément remboursable, ou alors il aurait fallu prévoir une subvention exceptionnelle, et alors on déroge au principe que ce budget doit s'auto-équilibrer, et cela signifierait que la commune supporte déjà sur ses deniers les 200 000 euros. Ces 200 000 euros qui se rajouteraient aux frais déjà réalisés sur le budget principal. Ce budget annexe, normalement, doit s'autofinancer, car c'est un SPIC. Vous parlez d'emprunt dans le projet de délibération joint, alors que celui-ci n'est pas prévu dans le budget annexe. Peut-on contracter un emprunt sans qu'il soit prévu et voté par le conseil municipal ? Respectez-vous le code général des collectivités pour cette délibération ? Beaucoup de questions, peut-être qu'elles sont, mais ce que j'aimerais bien, c'est que vous y répondiez.
Comme on l'a expliqué précédemment, quand on a, au conseil municipal précédent, quand on a dit qu'on ouvrait un budget annexe, c'est qu'on était d'accord qu'aujourd'hui, c'est prématuré. Simplement, aujourd'hui, c'est une exigence du comptable, puisque sur plein d'autres sujets, d'ailleurs, comme vous avez pu le constater dans vos rôles d'eau, où le comptable a supprimé la régie de recettes pour l'eau et l'assainissement, et on est changé sur le mode de paiement, il y a tout un système nouveau qui est mis en place aujourd'hui par les trésoreries et qui a nécessité d'aller plus rapidement que prévu dans le budget annexe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce budget annexe, c'est en gros, pour faire un peu simple, pour essayer de donner une image, c'est comme une ligne de trésorerie qu'on mettra en place sur le budget annexe du Montvinet. Et tout ça se mettra totalement en ordre de marche lorsque le projet sera totalement ficelé, validé, puisque pour l'instant, on est sur la phase étude. Je pense que d'ici l'été, on devra avoir la phase APD, donc avant projet détaillé, donc avec un coup d'objectif sur les travaux, et qui va nous permettre effectivement d'affiner le plan de financement et de savoir réellement le reste à charge et comment on va fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du fait que ce budget annexe soit monté en prématuré, pose certaines difficultés et certains jeux d'écriture. C'est pour ça qu'on est obligé, d'écrire des dépenses et pour faire un équilibre, en particulier sur les frais de personnel, qui ne seront sûrement pas à ce niveau-là, puisque ça va correspondre aux frais de secrétariat et à l'équilibrage entre le budget principal et le budget annexe. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure, au stade où on est, de pouvoir réellement le quantifier. Donc ce qu'on a vu avec la trésorerie et en particulier le percepteur, on met aujourd'hui un chiffre. Et après, bien sûr, ce chiffre sera rééquilibré soit par budget supplémentaire, ce qui est à peu près sûr qui arrivera dans l'année, ou au compte administratif de budget à la fin de l'année 2024. Voilà un petit peu où on est. Aujourd'hui, on est toujours dans la même dynamique qu'on était il y a un mois. On n'a pas terminé les études, donc on n'a pas de coût d'objectif. On n'est pas du coup en avant-projet détaillé, donc on ne peut pas donner de coût. C'est pour ça que ça arrivera en son temps. Il y aura donc la présentation de l'avant-projet détaillé, ce qui fera l'objet à ce moment-là, d'ailleurs, de la validation du lancement définitif et du projet. Pour l'instant, aujourd'hui, on est obligé, parce que comptablement, on est obligé de le faire, pour permettre de payer d'une manière un peu dissociée du budget communal les frais qui vont dérouler aujourd'hui sur le Montvinet. Mais on n'est pas sur son montage complet encore. Ça demande encore quelques semaines, quelques mois de travail. Et bien sûr, il y aura une commission, je le dis, dès qu'on a les éléments, mais on ne les a pas encore, parce qu'il y a quand même un certain nombre de diagnostics qui sont en route sur ce dossier, et on pourra travailler sur le budget global du Montvinet, mais pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les éléments, puisque les études ne sont pas terminées. Voilà d'une manière assez synthétique, je réponds un peu à vos questions. Sur la légalité, là-dessus, on travaille avec la perception, et après, le service de légalité sera à même de contester la délibération s'il y a lieu. Pour moi, aujourd'hui, elle est bâtie avec le percepteur et le trésorier. C'est lui qui manage cette partie-là, hein, puisque c'est son rôle. Je vous rappelle quand même qu'on le rémunère pour ça aussi. Donc voilà un peu ce que je peux répondre sur vos différentes questions d'une manière un peu globale.
Et donc, est-ce que vous pouvez me répondre sur le fait que l'avance de trésorerie ne sera pas remboursée? Or, une avance est forcément remboursable. Est-ce qu'on a tort ou raison?
Alors, aujourd'hui, le percepteur n'en fait pas une condition sine qua non au stade où on en est. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas encore écrit dans le marbre qu'elle ne sera pas forcément remboursable. On verra en fonction du montage du dossier comment on sera. C'est sûr que tu veux dire, à un moment donné, il y a un jeu d'écriture à avoir avant que, un, les loyers se mettent en place, deux, le prêt ad hoc qui ira en face pour financer les travaux qui correspondra à la nuitée du bail. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de certifier le remboursement total ou partiel de l'avance. Et puis peut-être qu'on décomposera à terme peut-être aussi le... Parce que tout n'est pas... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est pas dans le budget annexe sur le tellement du Montvinet. Aujourd'hui, le budget annexe prend en compte que la maison, le château par lui-même et les périmètres immédiats. Par contre, les annexes et toute la propriété du Montvinet restent propriété communal, n'est pas dans le budget annexe, parce qu'il ne fait pas l'objet de l'EPIC. L'EPIC porte que sur le château. Donc c'est pour ça que forcément, il y aura un jeu de rééquilibrage, mais aujourd'hui, on n'est pas à même. On aurait été, il y a 2 ans, on n'aurait jamais fait de budget annexe à ce moment-là, parce que le percepteur à l'époque ne l'imposait pas. Et aujourd'hui, par contre, l'impose sur tous les sujets comme ça, immédiatement. Donc c'est pour ça qu'on est un peu, on n'est pas tout à fait, on n'a pas tous les chiffres, et du coup, on est obligé de faire un budget d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un budget aujourd'hui pour faire gérer les affaires courantes. Pour éviter de le faire toutes les 5 minutes, on est parti sur 200 000. On aurait pu partir sur plus ou sur moins. Aujourd'hui, c'est pour se dire, voilà, ça nous laisse le temps de terminer la phase APD. Et à l'issue de la phase APD, on montrera le vrai budget du Montvinet.
Et l'emprunt ?
Ben, je ne sais pas aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire d'abord.
Vous dites, vous parlez d'un emprunt.
Ben, il y aura forcément.
Celui-ci n'est pas prévu dans le budget annexe.
Non.
Peut-on contacter un emprunt sans qu'il soit prévu et voté par le conseil municipal?
Il sera, quand il y aura un emprunt, il sera débattu. Pour l'instant, aujourd'hui, pour faire ça, il faudra d'abord, il faut qu'on ait l'APD, qu'on connaisse vraiment le coût de l'objectif. Il faut qu'on lance l'opération, puisque ça sera en fonction du coût de l'objectif de l'APD qu'on lancera officiellement et définitivement l'opération. Et effectivement, c'est là-dessus qu'on validera le plan de financement définitif en fonction de nos partenaires financiers. Et on verra, du coup, le prêt qu'on mettra en place à ce moment-là pour compenser la différence de financement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, et c'est prématuré, on n'a pas le coût de l'objectif, on ne sait pas. On en est toujours dans le même débat qu'il y a un mois. C'est juste aujourd'hui une démarche administrative qu'on est obligé de faire pour ouvrir ce budget annexe dans le cadre d'une comptabilité M4.
Et vous pouvez m'expliquer les 50 000 euros dans dépenses de fonctionnement ?
Je vous dis, c'est des dépenses qui sont mises aujourd'hui, effectivement. C'est pour pouvoir honorer. On sait qu'on a une partie, on a la vidéoprotection, on va avoir une partie d'assurance. Mais aujourd'hui, voilà, ce chiffre, on aurait pu mettre 30 000, on aurait pu mettre. Puisqu'aujourd'hui, c'est un chiffre, on sait bien qu'aujourd'hui, le budget final, on pense qu'il va être autour de 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on ouvre ce budget pour dire de combler les dépenses courantes, mais on aura. Bien à l'alimenter dans les prochains mois en fonction du coût réel de l'objectif de ce projet. Mais pour l'instant, on ne peut pas travailler, on n'a pas encore terminé, et du coup, ça serait ridicule d'aller supposer qu'on soit à 2,1 millions ou 2,3 millions alors qu'on n'a pas fini l'étude et que dans quelques mois, on aura fini, on pourra travailler le budget supplémentaire réel dessus avec ses vrais coûts d'objectif.
Et pour les recettes, alors, elles sont aussi fictives, alors ?
Ben c'est l'avance. C'est la délibération 2027, c'est l'avance qu'on fait dessus. C'est le budget principal qui vient faire l'avance de 200 000, qui vient faire les recettes. Et en fait, les dépenses, c'est pour pouvoir justifier les recettes. Vous savez qu'en termes de comptabilité publique, quand on est obligé de justifier. On a mis une avance de 200 000, on met des dépenses. Ça ne veut pas dire qu'elles seront faites comme ça, mais on le fait toujours comme ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on ne peut plus mettre de dépenses imprévues. Donc,
les recettes, elles viendront d'où alors
C'est l'avance sur le budget principal, c'est la délibération 2027.
Oui, mais bon,
C'est l'avance sur le budget principal, c'est la délibération 2027. D'autres questions sur la mise en place du budget annexe du Montvinet et en même temps sur l'avance de...
Oui, Eric. Oui, une question. Si, moi je suis toujours un peu pessimiste sur ce dossier, tu le sais, si pour X raisons, le dossier ne va pas jusqu'au bout. Montvinet, pour des raisons économiques, n'est pas viable et le projet ne peut pas être fait. Qu'est-ce qui se passe ?
Pour l'instant, on aura perdu effectivement l'argent des études. Hein, donc on aura perdu, je crois que la première phase, c'est 60 000, il me semble. On aura perdu effectivement les 60 000 euros de la partie APD. Et puis effectivement, il faudra chercher peut-être un autre projet. On n'en est pas là aujourd'hui, loin s'en faut. Aujourd'hui, on avance bien sur la partie diagnostic. On pense vous faire un rendu avant l'été. Avec les bureaux d'études pour vous donner. Et normalement, on n'en est pas là aujourd'hui. En tout cas, c'est pas du tout dans le. Il n'y a pas aujourd'hui de discussion dans ce sens-là. Par contre, c'est clair, si ça avait le cas, on aurait perdu les 60 000 euros d'études qu'on aurait fait dessus. Alors, perdu ou pas perdu, parce que le diagnostic sur le bâtiment, il sera toujours réutilisé pour autre chose, savoir comment il est fait, qu'est-ce qu'il a comme matériaux, qu'est-ce qu'il y a. Il sera pas totalement perdu, mais effectivement, on peut, si on voulait être. On pourrait dire, allez, oui, il est perdu, éventuellement. Mais il servira forcément à autre chose. Même si ça doit faire une maison d'habitation, il faut bien faire un diagnostic aujourd'hui pour savoir ce qu'il y a de l'amiante, du plomb, comment on travaille ça, comment ça ne sera pas totalement perdu. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Aujourd'hui, le projet suit son cours. Simplement, il a besoin d'avoir une grande attention parce qu'on travaille avec un architecte du patrimoine et tous les bureaux d'études ad hoc. Il faut prendre son temps pour faire les études correctement pour ne pas aboutir n'importe comment et faire n'importe quoi non plus, quoi. Donc,
Ok. Bon, ben, moi, j'ai donné mon accord il y a un mois et demi, donc on va continuer à faire confiance en l'avenir.
Et on y verra beaucoup plus clair. Vous y verrez beaucoup plus clair quand on aura les premiers retours, les premiers rendus.
C'est un peu le souci.
Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est obligé d'aller doucement, lentement, parce qu'on veut pas faire n'importe quoi. Parce que l'objectif, c'est que ce qui doit se passer dans ce bâtiment doit respecter son caractère architectural. C'est pour ça que du coup, il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites avec l'architecte du patrimoine et puis tous les corps techniques. Mais aujourd'hui, on a bien avancé. Maintenant, on a bien fait le point. La labellisation par le département a été validée aussi. Donc déjà, c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Donc maintenant, on va pouvoir très rapidement revenir autour de la table avec un vrai diagnostic.
OK.
On repasse sur la délibération 2024. Donc s'il n'y a plus de questions, je propose de mettre au vote. Donc qui est contre ?
Moi, puisque de toute façon, on a toujours été contre ce projet, donc je continue dans la...
Pas de souci. Qui s'abstient ? Merci. Pour la délibération donc 2024-27, donc, qui est effectivement l'avance de 200 000 au budget, de la part du budget principal au budget annexe. Qui s'abstient ? Qui est contre ?
Moi.
Merci. On passe à la délibération 2024-14, qui est donc la règle de durée d'amortissement pour le budget annexe du château Montminet. Je laisse la parole toujours à Myriam. Donc,
comme pour le budget général, il faut définir une durée d'amortissement pour ce budget. La mise en œuvre de l'amortissement a pour conséquence de créer un autofinancement minimal afin de maintenir un équilibre sain entre le recours aux fonds propres et à l'emprunt pour le financement de ces futurs équipements. L'instruction budgétaire et comptable M4, comme on l'a évoqué, relative à la gestion des services publics, industriels et commerciaux, mentionne des durées indicatives pour l'amortissement des biens, mais laisse la fixation de ces durées à la discrétion de l'Assemblée délibérante. Les durées retenues doivent correspondre à la durée de vie estimée du bien et les règles de gestion courantes devront être respectées. À savoir, les biens meubles et immeubles sont amortis par leur coût historique, c'est-à-dire la valeur d'acquisition non actualisée. Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire. Les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 500 euros et qui revêtent un caractère de durabilité, sont imputés en investissement et amortis en une année. La sortie d'un bien s'effectue selon la méthode du coût moyen pondéré pour les biens acquis par lot. Il est donc proposé ce soir d'appliquer aux immobilisations les durées d'amortissement qui vous sont présentées dans le tableau qui est donc dans cette délibération. Et de vous proposer de la manière suivante que les durées d'amortissement pour les biens meubles et immeubles détaillés soient acceptées, qu'il y ait donc un mode d'amortissement linéaire, un amortissement sur une année des biens et d'un montant unitaire inférieur à 500 euros, et que la règle du prorata, sauf pour les catégories d'immobilisation faisant l'objet d'un suivi globalisé, ne soit pas donc intégrée. Et que les durées d'amortissement présentées dans le tableau aux immobilisations relevant de l'instruction budgétaire et comptable référente à la M4.
Il y a des questions sur le plan comptable M4, en fait, parce que ça résume à ça, c'est le plan comptable M4 avec ce qui est prévu dans le plan comptable M4, la durée d'amortissement. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours la 2024-15, toujours Myriam, pour la cartographie du budget.
Donc, comme pour les autres budgets, par exemple CSAS ou la régie de chauffage, il faut définir les flux entre les budgets pour effectuer des mouvements au niveau des dépenses. Pour avoir une vision globale des flux internes, il convient d'établir une cartographie du périmètre des budgets annexes et une procédure qui formalise les contrôles afin d'identifier les flux internes à refacturer entre budget principal et les budgets annexes. En ce qui concerne ce budget, pour le château Montvinet, certaines dépenses de fonctionnement sont susceptibles d'être globalisées et portées par le budget principal, et l'ensemble des emplois sont portés par le budget principal. Il convient donc de fixer les dispositions générales régissant les modalités des concours et moyens apportés par le budget principal et dans le fonctionnement du budget annexe, avec une cartographie où on retrouve les moyens payants, donc certaines dépenses de fonctionnement globalisées entre le budget principal et le budget annexe, et des fonctions support payantes avec la Direction générale des services et le pôle ressources. Au niveau des moyens, si les dépenses sont globalisées et par conséquent portées par le budget principal, une refacturation se fera au réel en fonction d'une clé de répartition basée sur la superficie. Et au niveau des fonctions, sur la base d'un prorata de la masse salariale à hauteur de 0,50% de la Direction générale des services et d'un prorata de la masse salariale de 3,5% des agents du pôle ressources.
Il y a des questions sur la cartographie entre les deux budgets. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci.
Okay.
La délibération 2024-16, c'est le vote des taux d'impôt directs et locaux. Donc, comme on s'était engagé en 2020, c'était de ne pas augmenter l'imposition. Donc aujourd'hui, c'est la délibération que je vous propose, c'est de maintenir les taux d'imposition qui sont, pour information, inchangés depuis 2008. Donc le taux d'habitation, de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires à 14,38, la taxe foncière sur les propriétés bâties à 43,41 et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 65,55. Donc c'est les taux communaux et donc je vous propose qu'on ne les change pas pour l'année 2024, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, et on s'était engagé de ne pas les changer sur ce mandat. Est-ce qu'il y a des questions ?
Non, il n'y a pas de questions. Il y a juste une remarque, c'est que, en effet, les taux d'imposition vont ne pas changer. Par contre, l'eau a beaucoup augmenté. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la mairie directement, ce n'est pas le même budget, mais si je crois bien, parce que de toute façon, la communauté de communes, pour ce qui est de l'opposition, en tous les cas, ce qu'on appelle l'opposition à Vinay, on n'a pas le droit d'avoir aucune information.
Non, mais je peux la donner, par contre.
Mais voilà, il y a
Je peux, un je peux faire une petite parenthèse et je vais la donner parce que...
C'est pour ça que je me permets de te demander, raison, parce que tu es le vice-président, si
la,
je crois
la raison,
bien.
En fait, elle est très, très simple. On a remonté le prix de l'eau. Alors, il y a deux facteurs qui sont entrés en ligne de compte. C'est que la tarification avait été définie lors de la fusion de la communauté de communes en 2017. Avec l'objectif, c'était de ramener tout le monde au même prix à l'échelle des 47 communes. Donc, il y avait des communes qui baissaient, des communes qui montaient, et tout le monde était ramené. Avec une projection qui avait été faite à l'époque par un cabinet conseil dessus, et qui prévoyait une inflation telle qu'elle était en 2017, c'est-à-dire quasi nulle, inférieure à 1. Depuis 2022-2023, on a subi une inflation très forte, de plus de 5% sur les dépenses courantes. Mais par contre, on a pris une explosion du prix de l'énergie, en particulier l'électricité, et qui représente pour le service eau assainissement, puisqu'il n'était pas couvert par le même contrat qu'on avait, nous, forcément, à la commune, c'est-à-dire qu'on connaît jusqu'à l'année, donc, qui a été découpé avant, une augmentation de 1 500 000 euros. Et comme aujourd'hui, il y avait deux possibilités, soit on disait, et la capacité de financement des travaux nouveaux et de maintien en état du réseau est de à peu près 3 millions d'euros par an, 1,5 million en assainissement, 1,5 million en eau. Donc aujourd'hui, en perdant 1,5 million, en gros 700 000 sur, 750 000 sur chaque budget, c'est-à-dire qu'on diminuait par deux nos capacités à maintenir nos réseaux en état. Et surtout, on avait pris 10% d'inflation, ce qui n'avait pas du tout été prévu dans le calcul de 2017. Donc aujourd'hui, il a été proposé une augmentation effectivement assez significative, d'une part pour compenser l'augmentation de l'inflation qui n'avait pas été prise, et surtout le surcoût de l'énergie qui est catastrophique, puisqu'on avait, pour pouvoir garder nos réseaux en état, et surtout continuer à éliminer les fuites et à augmenter le rendement, et en conséquence diminuer les consommations électriques. Voilà pourquoi il y a eu une augmentation assez forte. Par contre, aujourd'hui, il est clair qu'on maintiendra le prix de l'eau avec le coût de l'inflation, mais il n'y aura plus de yo-yo comme ça, puisqu'en plus, apparemment, les prix d'électricité ont l'air de se stabiliser et plutôt peut-être même de rebaisser un peu, mais néanmoins, on ne redescendra pas aux 50 euros du kilowatt comme on avait, du mégawatt, on sera plus là, on restera probablement autour de 200 euros du mégawatt. Donc c'est quand même une augmentation majeure. Donc voilà pourquoi le prix de l'eau a augmenté. Et par contre, l'eau, c'est pareil, c'est un service qui doit s'équilibrer. C'est-à-dire que de toute manière, si on n'augmentait pas, on est obligé de baisser les investissements, mais on ne peut pas aller piocher dans le budget principal de la communauté de communes. C'est un service qui doit s'équilibrer. C'est le côté, c'est le problème, c'est ça, c'est la transformation qui a été faite dans les années 2002-2003, de mémoire, la transparence entre la comptabilité M14 et M49, où aujourd'hui, on ne peut plus abonder avec le budget M14 dans la M49. Donc le service doit s'équilibrer. Donc si on pourrait baisser l'eau, par contre, on n'aurait plus le droit de faire de travaux, on ne pourrait pas, parce qu'on ne peut pas abonder. Ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. Donc voilà pourquoi on est. Ce qui est un peu différent pour les budgets ordures ménagères, par exemple, où là, il est autorisé à titre exceptionnel d'abonder. Mais par contre, il n'est pas autorisé sur le budget M49. Voilà l'explication.
Merci.
Je reviens sur les taux d'imposition. Donc les taux n'augmentent pas. Donc si vous êtes d'accord, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je repasse la parole à Myriam pour la suppression des emplois permanents dans le tableau des effectifs.
Donc là, un peu comme d'habitude, je vais quand même rappeler la règle. Les emplois de chaque collectivité ou établissement public sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précitée et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour rappel, il est indispensable de mettre à jour le tableau des effectifs en cas de modification, de création, de suppression ou de modification de la durée hebdomadaire de certains postes. Donc pour cette délibération, on est surtout sur des suppressions d'emplois permanents avec la mise à jour du tableau des effectifs permanents. On fait donc le ménage sur des emplois qui sont non pourvus ou plus pourvus. Donc c'est assez long, mais vous avez le détail. Donc on a de la suppression d'emplois permanents plutôt sur la filière administrative. Pourquoi ? Parce qu'on a des postes où en fait les agents sont partis sur d'autres collectivités. Ou alors on a des mises à dispo qui sont longues. Donc on a différents mouvements qui ne valent plus lieu de maintenir ces emplois en permanent. On met à jour également le tableau avec les effectifs permanents par rapport à des évolutions de grade ou cadre d'emploi.
Des questions sur le tableau des emplois?
Oui, sur la suppression des emplois permanents. Donc, il y a apparemment deux emplois d'attaché principal qui ont été supprimés, c'est ça?
Oui.
Et il n'en reste plus qu'un seul, il n'y a plus qu'un seul cadre A dans les emplois permanents.
Alors là, on parle de la suppression, mais oui, c'est ça, oui.
Oui, la suppression des emplois permanents. Oui. Il y a attaché principal. Oui. D'accord. Et quand on voit le tableau des effectifs permanents, moi, j'en vois qu'un seul attaché.
Oui, confirmé.
Donc je voulais savoir.
Confirmé, il n'y a qu'un seul emploi catégorie A.
Oui, mais alors donc c'est deux. Oui, oui.
Donc, mais en non permanent, oui.
Il y en a un en technique et un en administratif.
Oui, oui. Oui, mais
en permanent, oui.
Attachés. Et les attachés qui ont été supprimés, ils avaient quelle fonction? Ils sont. C'était.
Oui, vas-y.
On avait un emploi. Alors, on l'a vu en commission, hein, ça. Oui, alors, vous n'êtes pas venu. Hein.
Je vous rappelle.
Et pourtant, on avait fait un gros travail pour bien répondre à vos questions.
Je vous rappelle que, ben, en fait, effectivement, j'ai eu des problèmes médicaux et que je n'ai pas pu aller à tous les.
Mais retenez qu'on avait bien préparé notre commission, quasi rien que pour vous. Hein.
Ah bon?
Ah,
bon,
oui. Bah alors, alors je vais vous répondre, mais bon, on n'aime pas trop, mais c'est non, mais sur l'emploi d'un DGS.
Je vous rappelle
voilà.
Que le conseil municipal, c'est l'organe de délibération.
Tout à fait.
Donc, et de démocratie.
On n'avait aucun problème avec ça. Donc le poste d'un DGS hein, qui s'est mis en dispo longue, si je ne me trompe pas, Guy. Et puis le deuxième sur la... C'était Fanny. Ouais, ouais. Responsable RH et communication, enfin plutôt DGA.
D'accord.
Voilà.
Qui a fait une rupture conventionnelle.
Et voilà, qui s'est terminé par une rupture conventionnelle, à sa demande.
Et l'ingénieur principal, là en fait, dans les tableaux des effectifs permanents, par exemple, ingénieur principal au niveau technique, il n'y a personne.
Si, c'est notre DGS actuel, Guy Chevalier.
Il est là.
Il cumule deux postes.
Non.
Non.
Non, non.
Technique.
Ben vas-y, tu peux expliquer ton statut.
DGS.
Il va vous dire, il va vous répondre.
Vas-y. Oui, c'est normal sur les postes de DGS, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation d'avoir créé, parce que mon grade, c'est ingénieur principal. D'accord. Et je suis détaché sur le poste de directeur général des services, sur un emploi fonctionnel. Donc, il y a finalement deux postes, mais c'est une obligation d'avoir les deux postes, effectivement.
Ok.
C'est pour ça qu'il travaille deux fois plus.
Voilà. Oui, apparemment, oui, il travaille beaucoup.
Voilà. Donc, c'est parce qu'il c'est pour remplir les deux postes. Non, mais c'est, voilà, c'est tout le côté très charmant de la subtilité
de la fonction
publique. Et je resterai poli.
Mais il faut la défendre, cette fonction publique. Parce
oui, mais on pourrait la simplifier.
Elle est bien mise en cause.
On pourrait la simplifier parce qu'il n'y a que dans la fonction publique où on a besoin d'avoir deux postes pour une seule personne. C'est très logique. Pour un seul salaire, hein, je précise quand même pour tout le monde qu'il n'a pas de salaire. Voilà. Donc je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et bien la suppression cette fois pour les non-permanents.
Voilà, donc exactement pareil, mais pour les emplois non-permanents, avec la mise à jour du tableau. On rappelle encore une fois qu'il est indispensable de mettre à jour ce tableau. Encore une fois, et qu'en cas de modification, de création, de suppression, de modification de la durée hebdomadaire d'un poste, il faut donc le voir dans le cadre de ce type de délibération. Donc là, pareil, hein, on a beaucoup d'emplois non permanents, non pourvus, mais qui sont relatifs, je le précise, à des saisonniers ou dus à de l'accroissement temporaire, notamment par rapport aux écoles, par exemple. Voilà, donc là, vous retrouvez un petit peu tout notre ménage entre suppression et mise à jour du tableau, avec des modifications sur le tableau des effectifs qui sont dues, voilà, pareil, à des changements de... Enfin, au niveau horaire, où voilà, vous avez un peu plus de détails sur les motifs de recrutement.
Des questions sur le tableau des non-permanents? S'il n'y a pas de questions, on met au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On passe maintenant à l'animation 2024-19, qui est sur l'objet donc, de la protection sociale. Et je laisse toujours la parole à Myriam.
Donc là, cette délibération, pour commencer, je souhaitais vous dire qu'elle avait été vue et adoptée, enfin préadoptée en comité social territorial avec les représentants des agents. au sein de notre collectivité. On rappelle que les employeurs publics territoriaux doivent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent pour couvrir les risques de santé ainsi que les risques de prévoyance. Pour le risque prévoyance, l'employeur aura l'obligation très prochainement de participer financièrement à la souscription de cette garantie à compter du 1er janvier 2025 avec les précisions suivantes. Un montant minimal de la participation qui s'élève aujourd'hui à 7 euros brut mensuels. Ce montant serait porté à 17,50 euros, soit 50% du montant de référence fixé à 35 euros. Les garanties minimales éligibles à la participation de l'employeur sont l'incapacité de travail et l'invalidité. La souscription de cette garantie par l'agent va devenir obligatoire. Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour le versement de cette participation financière de la part de la collectivité via un contrat de mutuelle labellisé dont le choix est librement fait par l'agent concerné et puis via une convention de participation signée entre l'employeur et une mutuelle. Si le choix de l'employeur se porte sur la convention de participation, celle-ci peut intervenir selon deux modalités, après une procédure de mise en concurrence et en adhérant à une convention de participation proposée par le centre de gestion après mise en concurrence. Aujourd'hui, le CDG 38 a décidé de lancer en 2024 une consultation afin de conduire une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Et à cet effet, le CDG a missionné un cabinet spécialisé pour élaborer un cahier des charges et accompagner dans la mise en concurrence et la mise en place du contrat. Le CDG propose donc aux employeurs intéressés de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération. Et afin de respecter l'échéance que l'on impose par le décret et en fonction des mandats confiés par les collectivités, le CDG sera en mesure de proposer une convention de participation dans le domaine de la prévoyance dans le courant du deuxième semestre 2024 et pour un début d'exécution du marché au 1er janvier 2025. Donc à l'issue de cette consultation, les collectivités conserveront l'entière liberté de signer ou non la convention de participation qui leur sera proposée. Il est rappelé que les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités ayant donné mandat et qu'ils seront invités à les présenter à leur organe délibérant. Donc en fait, c'est simplement adhérer à un groupement de commandes via le CDG 38.
Les observations ? S'il n'y a pas, je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. La participation, la protection sociale.
Donc là, je continue. Sujet qui a également été vu en comité social territorial avec les agents représentants. La participation à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance, qui est dans le cadre de la convention de participation mutualisée et qui est proposée par le CDG. Là, ce que l'on peut dire, c'est que les contrats de protection sociale s'inscrivent dans le cadre de conventions de participation conclues avec le CDG pour une durée de 6 ans, sur la base des participations financières suivantes. Pour le risque santé, 5 euros par agent et par mois. Et puis pour le risque prévoyance, à hauteur de 10 euros par agent à temps complet et par mois. Mais surtout, pourquoi cette délibération pour l'ouvrir aux contractuels ? Voilà, aujourd'hui, on estime qu'il faut également apporter de la protection et des avantages à nos agents contractuels.
Question ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Je laisse la parole à Renaud Mélinon pour le périmètre de développement prioritaire du réseau de chaleur.
Depuis la loi climat énergie du 8 novembre 2019, notre réseau de chaleur a été automatiquement classé avec des critères par défaut qui imposent aux personnes résidant dans un certain périmètre, s'ils changent de système de chauffage, à se raccorder ou tout du moins de faire la demande au auprès de Vinet Chaleur Bois pour se raccorder. Comme tout ce qui est par défaut, ce n'est pas forcément adapté à notre réseau. Et donc le travail qui a été fait, et vous en avez déjà eu un premier aperçu lors du zonage des ZAE, c'est de définir un périmètre pertinent autour de notre réseau de chaleur pour que ce soit économiquement et énergétiquement rentable pour notre régie et de fixer un seuil minimum de 30 kW pour les raccordements, toujours pour les mêmes raisons. Donc je vous propose d'approuver le périmètre de développement tel qu'il vous est proposé et de fixer ce seuil de 30 kW. Avez-vous des questions ?
Merci. Donc je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours Renaud pour le schéma directeur du réseau de chaleur.
Alors, toujours pour permettre le développement raisonné de notre réseau de chaleur, il y a un travail qui a été aussi entrepris avec le bureau EPOS et l'ADEME pour pouvoir aussi bénéficier d'aides financières de l'ADEME dans le futur. Et donc, vous avez eu en annexe tout le travail qui a été effectué. Et je vous propose d'approuver ce schéma directeur tel qu'il vous a été présenté. Avez-vous des questions ?
Oui.
Oui.
Alors, en fait, donc, après la lecture, avec aussi d'autres personnes de ce schéma directeur des réseaux chaleur, donc, en fait, on a quelques questions. Donc, page 4, le comité de pilotage. Il est fait état dans sa constitution de quelques représentants des abonnés du réseau. On voudrait savoir qui sont-ils et comment ont-ils été désignés.
Ils ont été désignés au premier conseil municipal dont siégeait votre groupe.
D'accord.
Et le représentant des usagers et entre autres Francine Aragoni.
Et donc, il y a combien d'années ils vont rester
À chaque élection du conseil municipal, comme toutes les délégations ou les représentations qu'on a dans les organismes. Ça se fait à chaque fois, à chaque renouvellement du conseil municipal.
Page 9, le point de contestation signale que depuis la mise en service du réseau, il y a plus de 12 ans, un médiateur de l'énergie a été nommé. Alors, qui est-ce et quelles sont ses coordonnées ?
J'avoue que je ne peux pas vous renseigner, mais c'est médiateur à l'échelle départementale, donc s'il y a un souci, on n'en fait pas. Par contre, je n'ai pas le nom à vous donner. Je ne connais pas le nom, effectivement.
C'est des personnes qui nous ont demandé.
Le jour où le besoin se fait sentir, ils viennent à la mairie.
Mais c'est quelque chose de réglementaire, mais je ne connais pas le nom aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner le nom. On pourra se renseigner, mais je ne peux pas vous donner le nom. C'est quelque chose. Il n'intervient pas spécifique pour Vinet. Hein. C'est quelqu'un qui est défini un médiateur de l'énergie, il est global. Hein. Et il ne fait pas que les réseaux de chaleur. Il peut faire aussi pour d'autres problématiques. C'est les gens, ils ont un problème électrique, etc. C'est tous ceux qui vendent de l'énergie. Mais on va se renseigner, on vous dira le nom. Qui est le médiateur actuellement sur Vinet, mais je ne le connais pas.
La liste est au niveau du site de la préfecture.
Oui, c'est possible. Voilà, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'intervenant sur Vinet.
Oui, mais c'est peut-être bien aussi de l'avoir au conseil municipal. Et donc, page 16, action et échange avec les abonnés et les usagers. On remarque une absence de représentation des usagers et une absence de réunion d'information.
Ben non, il y a un représentant d'usagers au conseil d'administration.
D'accord. Et réunion d'information ? Il y a des réunions d'information régulières ?
Non, il n'y a pas eu. À ma connaissance, enfin, tous les cas, depuis 2020, il n'y a pas eu de réunion d'information. Mais par contre, c'est une des actions effectivement qui va être menée prochainement dans le cadre du schéma directeur. Par contre, il y a eu des rencontres régulières qui ont été faites avec les gens qui n'étaient pas raccordés sur le tracé, parce que ceux qui n'étaient pas raccordés pour essayer d'optimiser. Mais effectivement, depuis 2020, en tous les cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de réunion d'information plus globale. Par contre, il y en a certains qui ont été rencontrés par le bureau EPOS dans le cadre du schéma directeur. D'autres questions ? Je mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. La délibération 2024-23, donc c'est la possibilité de mettre en place le mécénat territorial. Donc en fait, aujourd'hui, on s'est aperçu que certaines collectivités, pas encore très développées dans l'Isère, mais plus particulièrement déjà bien développées, en particulier dans la Drôme, avec en particulier les villes de Valence, Romans, mais on en a d'autres, ont mis en place un système de mécénat territorial. Donc on connaît le mécénat aujourd'hui pour les associations en règle générale, mais pas au niveau mécénat territorial. Donc c'est donné, et ça c'est suite aussi à des rencontres que j'ai faites à Paris lors du congrès des maires, en particulier avec les fondations entre autres Total ou des fondations comme de chez EDF, etc., qui donc ces fondations-là sont à même d'apporter des fonds aux collectivités, mais dans le cadre de mécénat. Donc pour ça, il faut qu'on délibère, qu'on adhère à ce type de process. Donc aujourd'hui, entre autres, on voit qu'on a une baisse des dotations permanentes de l'État, que probablement nos dotations de nos partenaires associés viendront à terme à diminuer. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas inintéressant d'ouvrir cette possibilité d'aller chercher du mécénat très large sur des opérations qui peuvent être ciblées en amont, ça soit des opérations peut-être culturelles, des opérations peut-être plus... on va dire, on peut imaginer qu'on pourrait ouvrir le mécénat sur le cofinancement des fêtes de la Rosière, si des gens voudraient faire un don. Donc, il faudrait faire un mécénat pour les particuliers, ça exonérerait à hauteur de 60%, pour les entreprises, non, à hauteur de 66%, 60% pour les entreprises. Donc, on pourrait imaginer ça pour les fêtes de la Rosière, on pourrait imaginer ça éventuellement pour la mise en place d'un sentier culturel au niveau des parcours du Mont-Vinay, quand on va ouvrir le Mont-Vinay pour les promenades. On peut imaginer ça pour le voyage de Carfani, on peut imaginer sur plein de choses, voilà. Il faut simplement qu'à chaque fois qu'on a un mécénat, on cible sur quoi on va l'affecter, et avec une convention avec le mécène. Ça peut être très large. L'objectif quand même, c'est de pouvoir aller chercher des mécènes un petit peu, on va dire, qu'on n'aurait pas l'habitude d'avoir, en particulier certaines fondations, puisqu'il y a pas mal de fondations qui ont quand même de l'argent, ce qu'il faut aller le chercher, et il faut se donner l'outil. Voilà. Donc aujourd'hui, on se donne la possibilité de le faire. J'ai aucune idée, au moment où je vous parle, si on en aura beaucoup ou pas, mais en tous les cas, ça permet de le faire. On l'ouvre, c'est une possibilité. Les entreprises, des fondations, des mécènes plus importants pourraient le faire, des particuliers pourraient le faire. C'est cette possibilité qu'on nous aujourd'hui, mais pour ça, on a besoin de délibérer pour pouvoir adhérer à ce principe-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui.
Oui.
Donc, pour moi, c'est une délibération qui me pose problème, parce qu'aujourd'hui, donc, de nombreuses mesures économiques, sociales et environnementales détricotent les acquis obtenus ces dernières années par les salariés et les Français, les citoyens. Je ne peux que m'insurger devant le constat fait dans cette délibération que face à la diminution des ressources financières des collectivités territoriales, on doit faire appel au privé. Pendant des siècles, c'est la notion de charité qui était mise en avant. En 1944, le programme du CNR, le Conseil national de la Résistance, a lui mis en avant la solidarité et particulièrement à travers l'impôt. Je me rappelle mon grand-père qui était paysan métayer en Bretagne et qui me disait eh ben moi j'aimerais bien payer des impôts parce que ça voudrait dire que je ne suis pas pauvre. Le mécénat, c'est la possibilité pour ceux qui le peuvent financièrement de choisir qui, quoi. Comme cette délibération va être votée, parce que naturellement je vais être la seule à me singulariser, je vais poser plusieurs questionnements. Avez-vous prévu une charte éthique du mécénat ? Celle de la mairie de Valence, que j'ai là, est à prendre en exemple, parce qu'elle est intéressante.
Ça tombe bien, parce que c'est avec eux qu'on a travaillé, et on est parti totalement sur leur exemple. On a fait deux réunions avec eux.
Vous n'en parlez pas de la charte éthique, donc ça tombe, là, dans la délibération ?
Ça tombe très bien, mais parce que ça fera l'objet d'une autre délibération.
Ah, encore une autre délibération, ah, bah oui. Mais vous auriez pu...
D'abord, on ouvre le process, et après on mettra en place une charte. Je suis désolé, on est en France, hein. Donc on a toujours une grande complexité dans nos fonctions.
Vous auriez pu mettre une petite phrase pour
oui,
cela.
Oui, mais on sait bien qu'on n'est pas bon.
Donc, effectivement, cette charte éthique, elle est intéressante pour la mairie de Valence. Donc, pourquoi une charte ? Parce que le mécénat dans le secteur public est souvent porteur de problématiques juridiques. Hein, entre la comptabilité entre mécénat et marché public, Une entreprise peut-elle être à la fois prestataire et mécène? Il y a de nombreuses questions juridiques qui sont effectivement à s'interroger.
Là-dessus, la ville de Valence a très clairement répondu.
Voilà, tout à fait.
Ça ne pose aucun problème pour eux. Ils ont tous leurs partenaires, tous leurs prestataires sont quand même mécènes, dans la mesure où il n'y a pas de notation de publicité.
Et puis, effectivement, s'ils n'ont pas des marchés publics aussi sur la
si,
ville.
Si, tout leur
ah bah là, je l'ai bien lu, la charte éthique.
On leur a reposé la question, on les a re-rencontrés. Ah bah. Ils ont des prestataires. Et dans la mesure où il n'y a pas de publicité, ils ont des prestataires qui sont également attributaires de marchés publics, qui sont quand même mécènes.
Bah, vous l'avez lu, monsieur Maire?
Oui, oui, je l'ai lu, je l'ai rencontré.
Je vais retrouver la... Bah,
peut-être, mais en attendant, on leur a posé la question, ils me l'ont confirmé, ils nous ont même donné des noms. Mais c'est pas grave, on travaillera sur ça, c'est celle de Valence, on travaillera sur la nôtre.
Il faut travailler sur effectivement le problème des contentieux, effectivement, hein, effectivement, et puis de le fait aussi. Là, vous avez dit comment vous allez effectivement engager ce mécénat, c'est-à-dire ça va être donc des entreprises qui vont pouvoir choisir des projets, c'est vous qui allez. Il y a plein de questions et qui, dans cette délibération, ne sont
bien
pas...
Bien sûr, mais c'est le but. Aujourd'hui, bah, je vous l'ai dit, un des projets pour moi qui me semble qui peut être intéressant, c'est en particulier la classe délocalisée de Carfani. Donc aujourd'hui, on peut très bien imaginer de dire un mécène qui veut faire quelque chose pour aider cette classe à se délocaliser, on travaillera là-dessus. Ça peut être sur les fêtes de la Rosière, pourquoi pas. Ça peut être, voilà, c'est des sujets là-dessus qu'on discutera en commission prochainement, une fois qu'on aura ouvert la possibilité de le faire. L'idée, quand même, aujourd'hui, c'est que je trouve dommage quand je rencontre des gens comme les fondations de Total, qui, à mon avis, de toute manière, que la ville de Vinay refuse de faire le mécénat parce que pour des raisons éthiques, je peux comprendre. Par contre, je trouve dommage qu'aujourd'hui, on s'affranchisse peut-être de récupérer quelques argent de cette multinationale qui en gagne beaucoup. Et je pense que, justement, votre grand-père qui était métayer serait plutôt content qu'on ait piqué de l'argent
à
ces gens-là.
Non, parce qu'effectivement, c'est plutôt au niveau de l'impôt. Et pas au niveau de.
Mais c'est pas parce qu'on prendra pas le mécénat que ça fera remonter leur impôt.
Le gouvernement, il est fort avec les faibles, les faibles avec les forts.
Mais là, aujourd'hui, je suis pas au gouvernement, je suis à la mairie de Vinay. Je suis pas au gouvernement, je suis à la mairie de Vinay. Et l'idée, c'est à chaque fois que je peux récupérer 3 sous pour nos contribuables, j'essaye de le faire. Et du coup, je trouve aujourd'hui pas inintéressant qu'on ait cette possibilité. Comme je dis, peut-être que d'ailleurs, on n'aura pas de mécènes. Par contre, aujourd'hui, si on a des mécènes, ça pourra le faire. Ça peut démarrer tout petit. Par du particulier qui aura envie de faire un mécène pour financer, par exemple, aider la classe de maire, ou bien plus fort sur d'autres sujets. Voilà, donc là-dessus, c'est ouvert. Pour l'instant, on parle de la possibilité d'ouvrir cette possibilité
alors,
de mécénat.
Alors, je vais vous quand même dire page 9 de la charte. Hein. Donc, mécénat et marché public. Pour éviter tout conflit d'intérêts, la ville de Valence se réserve la possibilité de ne pas accepter le mécénat d'une entreprise qui participerait ou aurait participé récemment à une procédure de mise en concurrence préalable à la passation d'un marché public prévu par le Code de la commande publique ou risque de requalification en marché public. La ville s'interdit d'accepter le mécénat d'entreprise dont l'activité serait susceptible de laisser planer un doute quant à l'impartialité du choix des fournisseurs. De même que le musée de Valence se réserve la possibilité de ne pas recevoir de
mécénat. Tout à fait. Mais vous venez de le dire, se réserve. Et on leur a posé la question. Et ils ont aujourd'hui, dans leur mécène, un bon nombre d'entreprises qui sont attributaires de marchés publics à la ville de Valence.
Eh bien, nous, on sera très attentifs à ce genre de choses parce que ça ne nous semble pas... Ça nous semble contraire.
Et après, je vous rappelle que les marchés sont ouverts au code du marché public, donc on va dire que ce n'est pas totalement incompatible.
Un marché public, une entreprise qui travaille, qui a un marché public...
Mais on parle de la charte de Valence, ici on est à Vinay, donc on va rester sur Vinay, je vous en prie.
Ah, mais vous venez de me dire que la charte
on
de Valence...
On a travaillé avec eux, aujourd'hui, on a travaillé avec eux, et aujourd'hui, on verra, nous, comment on met en place nos mécénats. Donc, d'autres interventions sur le mécénat?
Et donc, ça sera dans une réunion?
Oui,
David. Total, on peut se servir du mécénat. C'est des entreprises qui payent des impôts en France. Alors certes, oui, Total, c'est une entreprise qui est très riche. Mais si on ne veut pas qu'elle parte à l'étranger ou autre chose, il vaut peut-être mieux lui faire...
Bon, d'autres questions sur le mécénat? Donc je propose qu'on mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je laisse la parole à Pierre Bruna pour la propagation de la charte du parc naturel régional du Vercors.
Bien, merci, monsieur le maire. Donc, je vous propose une charte, de signer une charte qui est bien publiée. Hein. Celle-ci, elle est bien connue. Vous en avez eu un extrait, d'ailleurs, un digeste à la fin de la convocation. Si vous la voulez la lire en entièreté, elle est à disponibilité sur le site du parc du Vercors. Autrement, cette charte, elle a commencé à être mise en place en 2017 par le mandat précédent, d'ailleurs. Et on aboutit aujourd'hui à ce que les communes participantes, dont les villes portes comme Vinay, l'approuvent en conseil municipal pour après être validée en finale par le ministère. Donc, voilà à peu près ce que la démarche officielle qui est ici. Moi, j'insisterai sur le fait qu'on a quand même pu bénéficier de pas mal d'appuis techniques et environnemental de la part du parc. Et on a, par exemple, je reciterai l'Atlas de la biodiversité communale, qui, pour 1 400 € sur 2 ans, nous a permis d'avoir 80% de subventions et des interventions très intéressantes. Et maintenant, une publication d'une cartographie de la biodiversité de la commune qui va arriver le mois prochain. Voilà. Donc, voilà l'exemple de collaboration qu'on a avec le parc et qui semble qu'on pourrait pérenniser. Voilà. Je suis disponible pour vos questions.
Merci, Pierre. Il y avait une réunion qui était ouverte à tous les élus à Cognien-les-Gorges il y a un mois à peu près.
C'est ça.
Qui était intéressante. On va vous faire passer dans la semaine un lien pour aller sur un film qui a été fait sur le parc là. Donc vous aurez un lien de téléchargement pour regarder ce film. Voilà, je pense que nous, on est que Villeporte hein, dans le process. Hein. Donc
On est Villeporte, mais justement, on peut bénéficier de la totalité des fonctionnalités offertes par le parc. Bien sûr.
Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à adhérer à cette charte. On a le conseil communautaire a validé la charte la dernière fois au conseil communautaire qui était à Vinay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose pour notre territoire d'avoir un parc régional et qui soit fort et qui défende. On va dire un peu le patrimoine et tout ce qui est, ça soit le patrimoine architectural ou au niveau de la faune et de la flore. Donc, je pense que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'actions aussi qui sont menées en parallèle avec le parc qui méritent d'être développées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose que cette charte, que c'est 2025, hein, c'est ça la...
Non, la charte, elle se terminera en 2037.
Non, mais là,
pour le
renouvellement. Oui. Le renouvellement, c'est 2025-2037. Donc, on travaille pour une charte et qui sera jusqu'en 2039 ou 37. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la charte?
Oui. Oui. Et donc, je voterai cette délibération. Simplement, j'ai quand même quelques questionnements. Donc, je l'ai bien lu. J'irai voir sur le site internet ce qui est en plus. Cette charte, elle permet un constat, le fait que les problèmes liés au climat, à la biodiversité, à l'écologie soient aujourd'hui mieux pris en compte qu'il y a plusieurs années, où les défenseurs de l'environnement étaient pris pour de doux rêveurs et même moqués. Donc moi, j'ai lu très attentivement cette charte. Au niveau du passage donc, du chapitre agriculture, je dis ce qui est dans la charte. Hein. On peut remarquer donc le paragraphe santé au niveau de l'agriculture qui reconnaît dans cette charte que pour la santé des agriculteurs, des habitants et la qualité des ressources collectives, il faut réduire la consommation des produits phytosanitaires, en fait hein, des pesticides, sur le territoire et développer des productions de qualité pour la consommation alimentaire locale, inciter à développer un programme agroécologique. Pour la biodiversité, c'est pareil, donc renforcer les interactions entre biodiversité et activité agricole, développer le tourisme de nature, alors là, peut-être qu'à Vinay, ce serait peut-être bien de développer aussi un tourisme de nature, ressources en eau, réduire l'impact des activités sur la qualité de l'eau, donc transition agroécologique. Donc tout ça, c'est très intéressant. Par contre, c'est dans cette charte, comme souvent au niveau des chartes, c'est pas une obligation, c'est on incite, on appelle à, on propose. Hein. Donc voilà, donc effectivement, rien n'est coercitif. Donc ce sont des grandes idées qui sont intéressantes quand même, parce qu'il y a 10 ou 15 ans, elles auraient pas, cette charte, elle n'aurait pas existé. C'est des avancées en demi-mesure, parce que ce ne sont que des intentions, mais elles sont quand même à prendre en compte. Et donc, je pose la question à Monsieur le maire, que va faire la mairie de Vinay, qui votera certainement cette charte, pour l'appliquer? Quelles mesures sur Vinay?
Vas-y.
Je vais peut-être déjà répondre sur ce qu'est un parc naturel régional. En fait, il n'a pas de pouvoir de décision ni d'imposer quoi que ce soit. C'est pour ça que dans une charte, vous n'avez pas de, comment dirais-je, d'imposition de choses. En fait, c'est surtout une réserve d'ingénierie pour justement aider les communes participantes à faire ce que vous avez énuméré, hein, par exemple, aider les agriculteurs à trouver des produits phytosanitaires moins nocifs ou des problèmes de remplacement. Par contre, il n'y a pas d'imposition à ça. La seule partie qui est vraiment où le parc peut imposer des choses, c'est dans la partie réserve. De la partie réserve du parc qui est sur les hauts plateaux, et il n'y en a que deux en France, hein. Il y en a une partie dans la Vanoise et une partie chez nous. Le reste ne peut être que du conseil et de l'aide à l'ingénierie de transition.
C'est ça. Donc, bah, déjà, à l'échelle de la commune, on a déjà fait partie des rares à avoir adhéré au process de l'Atlas de la biodiversité, parce que ce n'est pas la totalité des communes du parc qui ont adhéré, loin s'en faut. Hein.
Excusez-moi, je précise que dans la deuxième vague qui est en train de se produire, pratiquement l'entièreté des communes du parc aura réalisé un
AVC. Mais dans la deuxième vague, comme tu dis, alors que nous on était dans la première vague, puisque c'était ça aussi qui était dit, c'est-à-dire que si la première vague ne démarrait pas, le processus serait sûrement abandonné. Donc on est très fiers, on est rentré dans la première vague, ça a fonctionné, et aujourd'hui ça a fait des émules, puisque dans la deuxième vague, on va avoir une grande majorité des communes qui vont adhérer. Après, les actions du parc ne sont pas forcément, et loin s'en faut, et encore moins pour les communes Villeporte, liées aux collectivités locales. C'est plutôt une boîte à outils qui est faite, je reparle sur mes collègues qui étaient présents à la réunion de Cognac, hein. C'est vraiment une boîte à outils qui est faite pour tout à chacun de travailler dedans, d'aller chercher des informations, donc ça soit être l'agriculteur, ça peut être l'artisan, ça peut être les personnes de tout temps. La collectivité n'est pas forcément la porte d'entrée principale, loin de là. Donc c'est pas, et aujourd'hui on y est déjà dedans avec la classe de diversité. Sur la partie touriste vert, et ben on travaille, puisque je vous rappelle qu'on va ouvrir le parc du Mont-Vinay, et c'est pas pour rien, puisqu'aujourd'hui c'était un parc qui n'était pas ouvert au public, aujourd'hui il va être ouvert au public pour travailler sur éventuellement la reconnaissance des essences qu'on peut avoir sur notre territoire, et peut-être aussi sur la faune. Voilà, donc on ira piocher au cas par cas à chaque fois dessus. Le PLUI, et on a le PLUI doit être conforme à la charte, donc ça aussi, hein, c'est des éléments. C'est-à-dire que les éléments du PLUI doivent être conformes à la charte, ça c'est une chose. Donc tous ces éléments-là sont pris au cas par cas, mais ce n'est pas un outil qui est fait que pour les collectivités, c'est un outil qui est fait pour l'ensemble des habitants du parc, et sur lequel on en bénéficie, nous, en partie, ou d'une manière un peu particulière, sur les villes portes. Parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes non plus. Voilà. D'autres questions sur la charte?
Oui, juste une question. Puisque le PLUI doit tenir compte de la charte, ça sert à quoi d'adhérer à cette charte?
Ben parce que c'est une obligation aujourd'hui pour les communes qui adhèrent, qui sont membres du parc, de valider la charte du parc. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est. Alors, il y a eu un échangement quand même de la charte, qu'on n'en a pas parlé là. c'est la gouvernance, parce que jusqu'à maintenant, les communautés de communes qui adhéraient, c'est la communauté de communes qui adhère au parc et qui a les représentants. Et aujourd'hui, dans la nouvelle charte, ça sera la communauté de communes elle-même qui nommera son responsable à la gouvernance et pas les gens, pas le parc qui ira chercher les représentants pour la gouvernance. Bon, c'est un petit peu des nouveautés qui donnera un peu de poids aux communautés de communes qui adhèrent au parc. C'était ce qui a été fait. Mais effectivement, oui, on pourrait imaginer que ça serait pas. Mais par contre, si la charte n'est pas adoptée, du coup, elle ne s'appliquera pas au PLUI. Donc, c'est un peu la subtilité. Mais oui, on est tout le temps sur plein de sujets comme ça où
on s'abstiendra.
Je n'ai pas très bien compris la question, justement, parce que pourquoi ne pas adhérer à la charte et
pourquoi adhérer à la charte, puisque le PLU va nous imposer de tenir compte de la charte.
Mais quel est le problème?
Il n'y a pas de problème, ah bon, c'est que ça ne sert à rien.
Je ne sais pas.
Ah oui, oui, la charte est un élément qui doit être pris en compte dans l'élaboration du PLUI. Oui. Et on doit tenir compte et on doit l'appliquer. Oui,
je comprendrais de ne pas adhérer. Excuse-moi, je comprendrais de ne pas adhérer à la charte et puis de pouvoir ne pas l'intégrer au PLUI parce qu'on n'a pas envie de tenir compte de certaines choses. Mais si on met cette charte. Les principes de cette charte dans le PLUI, pourquoi ne pas adhérer?
Parce que ça n'a aucun intérêt, ça a une double fonction qui ne sert à rien. C'était juste pour faire remarquer qu'on nous donne des choses à voter qui ne servent à rien. Mais ce n'est pas la seule chose, hein, la charte n'est pas la seule chose.
Hein. Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre?
Non.
Il n'y a pas d'abstention?
Non.
Ok, parfait, merci. Je laisse la parole à Jean-Pierre Monnet pour la signature de la convention d'autorisation d'occupation du domaine public du centre hospitalier pour le cheminement de piétons devant l'EHPAD.
Merci, oui. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en commission ensemble afin de sécuriser le cheminement de piétons qui part pas de la grande rue principalement, mais en face de la poste, il y a un parking qu'on a fait. Et après ce parking, on va faire un cheminement piéton qui va passer devant l'EHPAD, qui va aller jusqu'aux écoles, aux restaurants scolaires et à la gare. Et les quartiers résidentiels de Pré-Chapotin aussi, puisqu'on peut bifurquer sur Pré-Chapotin. Donc ce passage va passer devant les voitures au lieu de passer derrière actuellement, où vous avez le plan 6 juin. Donc afin de permettre la réalisation de ce cheminement piéton, la ville de Vinay et le Chivy doivent signer une convention d'occupation du domaine public puisque le terrain appartient au Chivy. Afin de permettre la création du cheminement piéton adapté, accessible et sécurisé, devant l'EHPAD de Vinay, il est nécessaire de faire un aménagement sur les parcelles AD60 et AD64. Donc ça passe devant les arbres et c'est en fait sur le terrain du Chivy. Donc la surface mise à disposition pour la ville pour cet aménagement est de 313 mètres carrés, vous avez le plan en annexe. Donc en fait c'est seulement la convention qu'on passe avec le Chivy. Je crois que la durée, vous l'avez peut-être vu, mais n'est pas déterminée encore d'après ce qu'on a vu avec Guy. Donc je crois que c'est autour de 25 ans, entre 20.
Minimum.
Au bas mot 25 ans de convention.
Des questions?
Juste, là, en fait, sur le projet, c'est marqué la création d'un cheminement, etc. L'abattage des arbres nécessaire à la création du cheminement.
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin
vous
de...
Vous venez dire, Monsieur Monnet, qu'il n'y avait pas d'abattage.
Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait d'abattage, justement. Peut-être un arbre qui est...
On va laisser la parole à René, qui connaît bien le site, et il va pouvoir vous répondre.
Appuie encore un coup.
Non, mais appuie.
Appuie.
Non, mais...
Non, c'est pas enregistré,
c'est qui parle.
Voilà,
c'est
bon. Non, c'est pas à droite, c'est devant. Voilà.
C'est bon. Donc, il y a bien des abattages d'arbres, ici, qui vont être effectués. C'est les trois arbres qui sont au bout du parking, morts et qui sont dangereux pour les gens qui vont emprunter le chemin. Donc, ils sont sur la propriété du Chivy. Et nous avons autorisé la mairie de les abattre. Et en plus, nous, ça nous arrange parce que tout ce qui est... on conserve une grande partie des arbres et c'est la mairie qui va entretenir, qui va les élaguer. Donc c'est une convention qui est tout bénéfice pour le chivy, pour les pattes de vinet. Voilà. Mais par contre, il y aura des arbres qui seront abattus. Et nous, ça ne nous pose aucun problème parce que ces arbres sont sont à la limite de tomber Donc ça peut être très dangereux pour la population. Donc voilà. Mais il y aura des arbres abattus.
D'autres questions pour le cheminement le long de l'EHPAD? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Toujours Jean-Pierre Monnet pour la convention pour la fête de la Loire entre les deux villes.
La convention quadripartite pour la fête du Saint-Marcellin et de la Noix de Grenoble. Comme vous le savez avant, c'était la fête de la Noix à Vinay. On a convenu de faire un accord avec Saint-Marcellin et la fête se transforme en fête du Saint-Marcellin et de la Noix de Grenoble. Donc il y a une partie de la fête, enfin une première année, la fête va se passer à Saint-Marcellin et la deuxième année, une année sur deux, va se passer à Vinay. Donc ça, c'est l'accord financier, enfin la convention financière qu'on doit passer entre les quatre parties, donc les deux communes, l'Office du tourisme et l'intercommunalité. Ce qu'on dit à la fin, cette convention définit en particulier la contribution financière de chaque signataire de la convention, l'intercommunalité assumant les engagements financiers initiaux. Le versement des contributions des communes interviendra ultérieurement conformément aux délais, aux conditions spécifiées dans ladite convention. Pour les communes, c'est 30% pour un montant engagé dans la limite de 30 000 euros par commune, que ce soit la commune de Vinay ou de Saint-Marcellin. Pour l'Office du tourisme, 3 450 et le reste sera à charge de l'intercommunalité qui prendra le reste, la totalité. Il faut savoir, j'ai une information, qu'on a déjà des mécénats dessus. On a déjà une quinzaine de milliers d'euros de mécénats, justement, sur cette opération, et 15 000 euros de subventions.
Des questions sur cette convention entre les différentes parties?
Mais juste, est-ce qu'on connaît approximativement le budget global pour savoir combien ça va coûter à la commune de Vinay? Parce que 30%, ce n'est pas un montant.
C'est autour de 80...
Non, c'était 30 000. C'est pas 30%.
Non, c'est maximum 30 000 et ouais. 30% par commune.
Oui, mais le maximum, c'est 30 000.
C'est ce qui est écrit, hein, monsieur
maximum,
le maire.
C'est 30 000.
Maximum, c'est 30 000.
Oui, mais on est d'accord. Donc, ouais. Ça veut dire que... Ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est 30 000 ou est-ce que c'est jusqu'à 30 000 euros?
Jusqu'à 30 000.
Parce que ça peut être que 20 000.
C'est jusqu'à 30 000 et il y a des chances que cette année, on soit en dessous. Puisque le budget global devrait être... là, je reprends un peu sur les gens qui ont été plus présents. Mais...
À la dernière réunion, on était bien en dessous des 30 000. Voilà, on était même à 20... Ouais. Mais dans les 19 000, je crois. Mais voilà, mais l'idée, c'est d'être quand même limité au niveau de l'investissement sur cette fête. Mais on se donne une limite, voilà.
Très bien, merci.
Exact. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On a passé tous les sujets de l'ordre du jour. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal aura lieu donc le 17, donc la semaine prochaine, après. Donc on aura la commission spéciale pour l'élection de notre Rosière. Et dans la foulée, on fera un petit conseil municipal où il y aura cinq délibérations que vous avez reçues aujourd'hui par mail. Voilà. Merci. Ça fait plaisir.